Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames, Messieurs, la dernière fois, nous avons parcouru un premier sanctuaire de source, celui du Clitumne. Nous avons lu le récit de la visite qu'a faite Pline le Jeune dans ce sanctuaire. Son récit, relativement précis, permet de discerner une série de caractéristiques du lieu de culte qui sont complétées par d'autres données recueillies dans d'autres textes ou apportées par des inscriptions. L'intérêt de la description de Pline réside dans le fait qu'il s'agit d'une description, comment dire, très sèche, puisqu'il veut décrire un paysage, ébaucher un tableau de genre qui se borne à croquer sur le vif ce qu'il voit. C'est un exercice littéraire, mais pour nous, dans ce souci du précis, du descriptif, il est précieux, puisqu'il n'interprète pas, puisqu'il donne à peu près des faits bruts. Pour nous, ce point de vue est très important, puisque nous voulons d'abord savoir à quoi ressemblait un tel sanctuaire et aussi ce que les visiteurs y faisaient. Pline situe le bassin de la source dans un bois, ce qui en fait comme la clairière d'un bois sacré. Plusieurs dieux sont présents. Certains possèdent, à l'instar de Clitumne lui-même, des sources et une chapelle, mais Clitumnus est le maître du lieu et il possède un temple plus important. Sa statue, rapporte Pline, porte les insignes du pouvoir d'un magistrat, d'un personnage à pouvoir, son pouvoir sur ce lieu et les autres dieux présents, et aussi pour effectuer ce que les mortels attendent de lui. Sa source est extraordinaire par sa blancheur, sa transparence et sa force subite, tous traits qui portent la marque d'un propriétaire divin. Enfin, le site est partagé en deux. Un premier bassin devant le temple est sacré, nul n'a le droit d'y pénétrer. Un pont sépare ce bassin de la partie supérieure de la source où l'on peut se baigner. Ce secteur est, d'après Pline, profane. Je ne peux pas vous montrer d'autres images que celle-ci, puisque le sanctuaire lui-même et le site antique ne sont toujours pas connus. Cette description, et notamment la distinction de deux parties distinctes, a une grande importance pour notre recherche. Elle implique des conséquences pour la nature de l'eau qui est utilisée dans les sanctuaires de source, suivant l'endroit où on l'utilise. Nous avons ensuite commencé à réexaminer un document que nous avions déjà vu il y a quelque temps, c'est-à-dire la pater d'Otaniès, une pater qui provient de la région de Santander en Espagne du Nord-Est. La représentation, vous le voyez, comporte une sorte de topographie relativement fine. La nymphe, c'est-à-dire la source, est couchée entre deux arbres, hein, vous la voyez en haut, des chênes, me semble-t-il, ce qui renvoie au cadre campagnard et peut-être même aux sources du Clitumne, un bois sacré. Pour la bibliographie, je vous avais renvoyé à ce document. Si vous observez bien le flux de la source, vous vous rendez compte que, dans un premier temps, la source coule tout droit, ici. Personne n'y puise de l'eau, seul le personnage tenant un bâton contemple ce cours d'eau et il offre un sacrifice. Le bâton est communément identifié à une houlette, un pedum, et le personnage à un berger. Je vous ai dit que c'est peut-être un berger ou alors un berger qui tient lieu de représentant de la campagne. En effet, un deuxième sacrifice est offert par un personnage en toge, cette fois-ci, qui tourne d'ailleurs le dos à la source et qui pourrait, on l'a proposé, représenter un sacrifice au loin, en contexte urbain, où l'on porte la toge. En tout cas, les deux sacrifiants pourraient représenter l'ensemble de la population de la cité concernée, ceux de la ville et ceux de la campagne. Vous voyez que l'un des deux sacrifices, celui du togatus, est fait à l'aide d'une pater sur des fruits, ou plutôt sur des offrandes qui brûlent dans un feu sur l'autel. Le second a la main sur un autel où ne brûle apparemment pas de feu, mais où l'on distingue des formes qui pourraient être des offrandes végétales. Cette opposition pourrait encore contribuer à caractériser les simpli chiaroura, la campagne, les campagnards, comme écrit Horace, qui se contentent d'offrandes simples de la ville où on a un sacrifice avec, avec de la viande, du feu, etc. Quoi qu'il en soit, j'attire votre attention sur le point suivant. Le cours de la source est coupé par un pont, au-delà duquel la source s'élargit pour former un bassin dans lequel l'eau paraît d'ailleurs bouillonner, un phénomène exceptionnel comme on l'attend dans le cadre d'une source sacrée. Et c'est dans ce bassin que le jeune homme, sans doute un esclave, puise l'eau avec laquelle il remplit son amphore ou sa jarre. Cet aménagement correspond tout à fait à celui que Pline décrit. Une partie de la source est sacrée, jusqu'à un pont qui marque la limite entre le sacré et le profane, comme Pline le dit. Ici, c'est apparemment la même chose parce que l'eau est puisée en aval et non en amont du pont. Dans cette partie du cours de la source, seule la dévotion est représentée. Au-delà du pont, l'eau peut être manipulée, puisée et transvasée dans un tonneau pour être transportée ailleurs. Cette observation nous mène à la deuxième question, l'utilisation de l'eau. Si nous supposons que la règle énoncée par Pline, qu'il existe une limite entre la partie sacrée et la partie profane de la source, qui correspond d'ailleurs à la division traditionnelle des espaces dans les lieux de culte romains, nous devons conclure que la partie située au-delà du pont n'est pas sacrée. Le personnage en toge n'est pas exactement placé à côté du bassin. Comme je vous l'ai dit, et comme d'autres collègues l'ont supposé, j'ai l'impression qu'il se trouve ailleurs. Seuls les deux esclaves qui puisent l'eau et la versent dans le tonneau semblent se trouver près du bassin. Et du coup, les activités de ces deux personnages sont profanes. Ils ne manipulent pas de l'eau sacrée, mais de l'eau provenant d'une source sacrée qui est désormais elle aussi profane. C'est bien selon cette procédure que s'opère le partage sacrificiel. Par l'immolatio, les sacrifiants offrent tout l'animal à la divinité, puis après l'abattage, l'ouverture, l'agrément par les dieux et le partage de l'animal, une partie seulement de cette victime est rendue à nouveau profane. Une partie de l'animal est rendue profane. Et c'est celui-là que vont consommer les sacrifiants. Le reste est brûlé sur l'autel. Et dans ce contexte sacrificiel, le mot profane n'a pas exactement le même sens que chez nous. Il s'agit d'une chose qui a été consacrée et qui est donc sacrée, puisque entièrement possédée par la divinité, mais qui est ensuite à nouveau saisie par les célébrants et devient ainsi profane. Il y a un circuit de l'offrande par la propriété divine qui met aussi en scène, vous le voyez bien, une sorte de don et de contre-don de la divinité à ses cultores, à ceux qui l'honorent. De la même manière, l'eau de source est tout entière sacrée tant qu'elle se trouve dans une partie du bassin réservé à la divinité, c'est-à-dire avant le pont sur nos documents, au-delà de ce pont, elle devient profane. C'est pour cela que les esclaves peuvent la puiser et désormais la porter ailleurs, par exemple chez le vieillard qui la consomme. D'après une stèle datée quelque part de la première moitié du 1er siècle de notre ère, trouvée à Benevagienna dans le Piémont italien, eh bien, d'après une stèle, nous avons, où on peut voir la même activité de livreur d'eau représentée, je n'ai pas une image, mais je vous montre juste l'inscription, on distingue sur le champ central les mêmes scènes de remplissage d'un tonneau installé sur un chariot et de présentation de quelque chose ensuite à un personnage assis qui tend une coupe à celui qui verse. Sans doute s'agit-il de l'eau transportée. Et tout autour du champ central sont figurés des personnages portant des jarres ovoïdes qui renvoient à cette activité de porteur d'eau. Je suppose que la représentation d'un esclave qui le montre tendant quelque chose à la personne assise ne produit pas un acte cultuel, car rien ne marque la figure assise sur cette image que vous ne voyez pas, mais vous voyez de quoi il s'agit, comme une divinité. C'est exactement ce qu'on voit sur la patère d'Otaniès. Et comme l'inscription n'indique aucune fonction, la quatrième ligne, où vous lisez « cultor sacrorum, sacrorum cultor », pratiquant des rites, ne peut être considérée comme l'image illustrant cette affirmation. C'est l'ensemble de la stèle et la personnalité du dédicant que cette qualification décrit. Ces images paraissent établir que le jeune homme de notre pater était un livreur d'eau qui apporte de l'eau à une personne âgée. Et dans ce cas, les images de la pater paraissent illustrer l'inscription « Salus Humeritana » qui est la qualité attribuée à cette source, la « Salus ». Elle distribue aux habitants de la région, à la campagne comme en ville, une eau salubre, bonne pour la santé du corps, une eau de bonne qualité. C'est cela sa première vertu, comme pour Juturne, vous vous rappelez la fontaine du Forum romain. Bonne santé pour tous les jours, bonne santé pour les mauvais et pour les malades. Rien n'indique toutefois une fonction de guérisseuse, une fonction spécialisée et unique de guérisseuse. Comme pour les clitumnes et pour Juturne, l'auteur de ces images n'a pas du tout insisté sur la guérison. À nous de l'imiter et de ne pas reconnaître partout des sources guérisseuses. Ajoutons à ces paysages de sources, tels que nous les découvrons chez Pline le Jeune, et sur la pater d'Otaniès, ou de façon beaucoup plus réduite dans ce document du Piémont, un troisième document, beaucoup plus réduit puisqu'il est cassé, qui figure sur un fragment du manche d'une pater en argent, avec des détails dorés. Ce document provient de Caffeyton dans le Northumberland. Nous y découvrons Minerve tenant la lance et le bouclier, reconnaissable à l'égide, n'est-ce pas? Vous voyez ici l'égide avec la gorgone qui est typique d'Athéna et qui tient une lance également, et qui appuie un pied sur un récipient d'où coule de l'eau. C'est clairement la source sur laquelle elle montre son autorité. Elle est donc clairement la propriétaire de la source. Et vous voyez la différence par rapport aux nymphes. Retenez-le bien, Minerve est propriétaire de la source et elle est debout le pied sur la source, qui est tout à fait autre chose qu'une nymphe qui est couchée, ou comme un dieu fleuve, n'est-ce pas, et qui tient la jarre sous son bras. On voit qu'il y a une différence de statut entre cette grande déesse et la petite déesse comme l'est une nymphe. Sous la déesse, un temple entouré d'arbres, voilà les deux arbres, et enfin, de nouveau, le jaillissement de la source qui passe ici, elle passe à travers le temple, et là, il y a des sources secondaires de part et d'autre. Donc cette source jaillit comme est l'ensemble du paysage que vous avez ébauché là de façon très sommaire, comme pour vous indiquer que la source jaillit dans un bois sacré ou tout simplement que nous sommes à la campagne. Devant les arbres, devant la source et le temple, un visiteur tend la main vers un autel. Vous voyez ici ce visiteur qui a aussi son bâton, là, n'est-ce pas? Ça a plutôt l'air d'un pli du vêtement. Et puis, vous avez ici l'autel de la source. Sur les bords de la pater sont figurés deux personnages couchés, l'un masculin, l'autre féminin, qui appuient chacun le coude sur des jarres, de nouveau, dont coule l'eau qui se verse dans la pater. Ce sont ou bien une autre nymphe et un fons, une source, représentant d'autres bras de la même source, comme chez Clitumne, n'est-ce pas? Ou bien il représente les eaux dont Minerve est la patronne. Nous reviendrons à Minerve, en relation avec l'eau, à propos de la source de Bath, en Angleterre, source qui appartient à Sulis Minerva. Disons pour l'heure qu'il n'est pas étrange de trouver Minerve associée à une source. Minerve, patronne des techniques artisanales et donc de celles des médecins, portait parfois l'épiclèse médica. Il ne faut pas non plus oublier qu'elle avait, de par le mythe athénien, connu dans toute la Méditerranée à l'époque où nous sommes, une vieille et célèbre association avec Poséidon, Neptune pour nous Romains, avec lesquels elle se dispute l'Attique, n'est-ce pas, la propriété de l'Attique. Tout ceci peut expliquer pourquoi elle se trouve associée à une source, à l'eau. Et celle qui patronne la force de l'eau vive, j'en doute, mais nous y reviendrons. On la voit apparaître ici dans notre documentation et nous y retournerons. Le manche de Pater, de Cafiton, paraît en tout cas camper à nouveau un paysage où la source n'est pas approchable à son jaillissement. Pour bien comprendre, il faut partir de la fonction de la patère. Voilà la patère complète, n'est-ce pas ? Vous avez le manche et puis le récipient où on prend, dans lequel on puise, avec lequel on puise l'eau. La patère sert donc à puiser de l'eau, donc elle renvoie en somme à la partie profane de la source où on peut la plonger pour prendre de l'eau. Le manche, en revanche, représente la partie sacrée de la source avec Minerve et ses acolytes, où seul, comme à Otaniès, un sacrifiant est figuré. Le bord de la patère, hein, je l'ai symbolisé là, représente en quelque sorte la limite entre la source sacrée et son bassin ouvert aux mortels, avec son eau désormais à verser ou à boire, qui peut être manipulée. Et le trait rouge, c'est comme le pont, en quelque sorte, dans les autres représentations. Voilà comment l'artiste a joué avec cela, n'est-ce pas ? La source se déverse dans le récipient de la patère et symbolise ainsi ce passage de la partie sacrée à la partie profane de cette source. Il est temps de résumer les principaux éléments que ces premières sources directes donnent sur l'aménagement rituel d'une source. La source jaillit dans un bois sacré, dans une clairière. Dans un cas, la source jaillit sous un temple. Le texte de Pline, mais aussi l'inscription de la Pater d'Otaniès, signale des qualités surprenantes, la force, la blancheur, ou plus généralement la salubrité, qui sont autant de signes qu'une divinité est à l'œuvre dans ce lieu. Deuxièmement, la source se déverse dans un premier bassin qui est sacré, ce qui signifie sur le plan rituel, bassin ou cour ou tout ce que vous voulez, bien entendu cela dépend de l'aménagement, mais cela signifie que sur le plan rituel, cette première partie de l'apparition de la source eh bien, reste hors portée pour les mortels. Les mortels ne peuvent pas entrer physiquement en contact avec elle, comme ils ne peuvent pas entrer dans un temple, dans le bâtiment du temple et faire n'importe quoi, des activités humaines. Troisième caractéristique décernée, la seule activité possible dans cette partie du lieu de culte est le sacrifice à une distance prudente et respectueuse, comme on le fait devant un temple. On peut aussi regarder la source. Sur le clitum, on peut même faire une promenade en barque, jeter des monnaies ou des offrandes, mais c'est tout. Enfin, une limite qui est un pont dans les deux documents explicites, qui est le bord sur la patère de Northumberland, marque la transition vers le deuxième bassin de la source, qui est profane. Les mortels peuvent désormais se plonger dans l'eau de la source, ils peuvent la puiser, ils peuvent la boire, ils peuvent la manipuler. Voilà les seuls éléments directs que nous apprenons de nos documents explicites. Il conviendra d'en tenir compte lors de la promenade que nous allons maintenant entamer à travers des sites archéologiques pour visiter les ruines de sanctuaires de sources, des ruines que parfois nous verrons uniquement sous forme de plans, souvent d'ailleurs assez mauvais, puisque c'est des vieilles fouilles ou des fouilles mal publiées, mais en gros, vous verrez de quoi il s'agit. Je commencerai par l'Italie, avant de me rendre en Bretagne, ce qui veut dire en Grande-Bretagne, dans notre vocabulaire, puis je descendrai en Gaule et je terminerai en Afrique. Donc, les sanctuaires de sources d'après l'archéologie. Commençons aux environs de Rome, à Tivoli, par les eaux des Aquae Albulae, qui sont situées sur la route de Tivoli. « Mais oui, je n'ai pas insisté sur la situation de cet endroit, puisque voilà, nous n'avons qu'un mauvais plan. Nous ne connaissons que ce plan sommaire de cette source des Aquae Albulae, mais un aspect important se dégage immédiatement. Le lago delle Colonnelle, qui est situé, vous le voyez ici, hein, c'est le bassin, lacus au sens romain, lago, bassin, où jaillit la source, est isolé et conduit par un canal jusqu'à un bassin plus grand, le lago di San Giovanni, le bassin de Saint-Jean, qui est isolé lui aussi. Pas de construction, semble-t-il. Entre les deux, et notamment plus près du lago de San Giovanni, des thermes ont été construits. C'est de toute cette zone que proviennent les inscriptions dont je vous ai déjà parlé. Même si le site est mal connu, il se situe à proximité de la villa d'Adrien sur la route qui va à Tivoli, puisqu'il dit que d'un côté il peut voir Tivoli sur son rocher et de l'autre côté la villa d'Adrien. Il semblerait que l'espace soit bien divisé en deux zones. Une zone qui est celle du jaillissement de la source et puis une seconde qui est celui d'un bassin accessible où il y a aussi des thermes. Il y a également un deuxième, lago de la Regina, le deuxième lac, lago di San Giovanni, est ici, qui semble être un surgissement secondaire, et c'est là qu'il y a les thermes. Mais vous voyez, c'est compliqué, nous n'avons que ce très mauvais plan, nous ne pouvons pas en faire grand-chose. Allons à un site de l'autre côté de Rome, près du lac de Vico, le lac de Bracciano, oui, le lac de Vico n'est pas loin non plus, qui se trouve donc à 20-30 kilomètres à l'ouest de Rome. Les sources en question, qui sont appelées sources apollinaires du nom d'Apollon, sur la table de Peutinger, sur cette vieille carte, n'est-ce pas, qui nous a été sauvée, ont été captées en deux sites, à l'ouest et à l'est de Forum Clodi, sur le lac de Bracciano, et c'est la zone dont je vous parle, et toute celle-ci, n'est-ce pas? Les eaux, il y a deux sources, les eaux apollinaires dites anciennes, les Aquae Apollinares Veteres, qui jaillissent à Stigliano, sur la Via Cornelia, alors que les Aquae Apollinares Novae, les eaux d'Apollon neuves, les eaux neuves d'Apollon, donc une deuxième source, ont été aménagées dans un site qui s'appelle Vicarello. Les deux bâtiments sont attestés depuis l'époque étrusque, donc, et même plus tôt, jusqu'au 4e siècle, 4e, 5e, 6e siècle avant notre ère, et leur occupation dure jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Les bâtiments thermaux datent de l'époque romaine, c'est de là que nous avons les principaux vestiges. Les deux sites ont malheureusement été gravement endommagés lors des travaux du XIXe siècle, comme la plupart des sites thermaux, quand on a construit les thermes du XIXe siècle, n'est-ce pas, et on a utilisé les mêmes sources, et donc le même lieu, et souvent les mêmes murs, donc c'est très ravagé, et les données archéologiques ne sont pas aussi claires qu'on ne pourrait l'espérer. Mais le dossier relativement complet demeure intéressant car il comprend à la fois des vestiges archéologiques et des inscriptions. Donc nous pouvons progresser un peu. À Stigliano, c'est le premier. Donc vous voyez Stigliano ici, les Aquae Apollinares là-haut. Et ensuite le lac Sabatinus, le lac de Bracciano, avec ce site de Forum Clodi qui se trouve ici. Et d'ailleurs, nous avons vu une inscription à Bonadea qui n'était pas loin dans ce secteur. À Stigliano même, les eaux apollinaires, qui sont aujourd'hui au nombre de 7 sources, ont changé la topographie du site puisqu'elles se sont légèrement déplacées. Le site est partagé en deux par le fosso delle Sette Canelle, n'est-ce pas, ce fosso ici, qui est un ruisseau, et l'érosion due au fleuve Lenta. Dans l'Antiquité, le lieu de culte, qui a été publié par Gasperini, semble avoir formé une unité. Il n'y avait pas ce ruisseau qui passait à travers. Il est aujourd'hui relativement abîmé et n'a jamais été vraiment publié. C'est encore un grand dommage. C'est un beau site, mais qui est dans un état lamentable. La source semble avoir jailli dans une grande vasque quadrangulaire, là, entourée de portiques. Vous voyez l'état du plan, n'est-ce pas? J'en fais ce que je peux, mais ce n'est pas extraordinaire. À l'angle nord-est de cet espace où paraît jaillir la source, on a mis au jour une sorte de pièce pentagonale que Lidio Gasperini, qui a fouillé dans les années 70 cette partie, identifie à l'entrée des thermes, puisqu'ici, il y a des thermes. Au sud de cette pièce s'étendent donc les thermes. Or, la forme étrange de cette pièce pentagonale, qui ressemble à une autre pièce, donc regardez cette forme irrégulière, ressemble au site anglais de Bath, où vous avez aussi une forme très irrégulière qui a été intégrée dans un bâtiment bien, bien normé et bien construit, n'est-ce pas? Et l'autel, d'ailleurs, qui a été découvert dans cette pièce, semble indiquer, me font penser que c'est peut-être dans cette pièce que la source jaillissait et que l'espace carré est un espace déjà secondaire où on commence à organiser l'espace cultuel. Mais évidemment, pour aller plus loin, on aurait de nouveau, de toute façon, n'est-ce pas, le jaillissement ici, les thermes ici et un autre bassin secondaire ici où on peut puiser l'eau, ou c'est l'inverse, je ne sais pas. Mais pour aller plus loin, pour confirmer mes doutes, il faudrait avoir des plans plus complets. En tout cas, je ne suis pas capable, avec le matériel que j'ai, d'aller plus loin. L'inscription qui figure sur cet autel que vous voyez là est extrêmement mal conservée. Vous voyez les pointillés, ce sont les parties restituées des lettres. Et je ne suis pas entièrement convaincu par la restitution que propose Livio Gasperini, qui propose de restituer, n'est-ce pas, que un personnage qui semble avoir été le prêtre de ce lieu, il met sacerdos templi, ou tulliorum huius loci, les tullii sont des sources, des bras de source. Alors un prêtre des bras de source de cet endroit, ou un prêtre du temple, ça me paraît très étrange, d'autant plus que ce personnage aurait offert les bovis exuviae, la dépouille d'un bœuf. Et il considère que l'offrande dans la lacune, d'après les mots conservés au début, d'après des restes de lettres conservées au début, aurait été consacrée à Apollon. Mais vous voyez qu'on ne peut absolument rien faire avec ce qu'on a au début de cette inscription. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un couteau sacrificiel est sculpté, comme c'est souvent le cas, sur un des côtés de l'autel. Et au-dessus de l'autel, il y aurait été un ex-voto, se serait dressé un ex-voto représentant les dépouilles du bœuf. Je me demande ce que ça peut être, les dépouilles du bœuf, des cornes ou ça. Moi, je trouve ça extrêmement étrange. Lidio Gasperini date, en tout cas, l'inscription du 1er siècle. Toute cette reconstruction me paraît bizarre. Le texte est difficile, presque désespéré. Dans une dédicace du début de l'Empire romain, qui n'a rien de poétique, comme vous voyez, c'est vraiment une dédicace banale, où on dit « on a fait ceci à tel endroit, point », je ne pense pas qu'on aurait parlé de l'offrande des exuviers, de la dépouille de la peau d'un bœuf. C'est peut-être dans un poème, mais pas dans une dédicace. De toute façon, je me demande même si la leçon de la pierre est exacte. Je me demande si ce n'est pas « bovis » au pluriel, accusatif pluriel « boves » et « ex voto sacrificavit fonti huius loci » ou quelque chose de ce genre qu'il faut lire Et à ce moment-là, on peut aussi se dispenser de coincer Dono Dédite, les deux D, sous l'inscription. Enfin, et le T qui est indiqué ici peut bien être un F, parce qu'il manque les trois quarts de la lettre. Hein. Donc tout ça est extrêmement douteux. Il faudrait avoir un peu plus d'éléments pour aller plus loin. Quoi qu'il en soit, c'est la topographie du lieu, une fois de plus, qui nous intéresse. Deux scénarios sont possibles. Selon que la source jaillissait dans la pièce pentagonale ou dans la grande vasque carrée. Dans le premier cas, on ne pouvait contempler la source, y déposer des offrandes, mais non y pénétrer. Ceci n'était possible qu'un peu plus loin, dans la vasque, comme je l'ai dit, ou dans les thermes. Si la pièce pentagonale n'était qu'une entrée vers les thermes, le captage pourrait correspondre à la vasque carrée, mais pourquoi alors la pièce d'entrée a-t-elle cette forme étrange pentagonale ? Les thermes sont contigus, mais séparés de la source. Un temple s'élève au nord de la source, nettement plus loin. Il est dédié à Apollon, comme on l'attend, en raison du nom tardif du site. Un fragment de statue cultuelle a été trouvé aussi dans ce secteur, mais on ne peut pas en faire grand-chose. Une inscription datée par Gasperini de la deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère semble confirmer cette hypothèse. Nous y lisons qu'un affranchi impérial, nous ne savons pas de quel empereur il s'agit, Eros, qui porte le titre de procurateur, d'administrateur, donc des domaines impériaux ou de quelque chose dans l'administration impériale, la maison impériale, fait cette dédicace à Apollon Sanctus, au pur Apollon. Le seul intérêt de la plaque qui devait être fixée sur une base est de nous donner le nom d'Apollon, qui porte la même épiclèse que dans les Aquae Novae, comme nous le verrons. Sanctus, le pur Apollon. Je ne pense pas que cette dédicace suffise pour prétendre que désormais la source appartenait au fisc impérial, comme on pourrait le proposer, parce que Eros, affranchi d'Auguste, administrateur, procurateur, on pourrait imaginer que c'est le fisc qui est en cause. Mais bon, ça ne suffit pas, je crois. Eros peut très bien être le gérant d'un grand domaine impérial voisin. Il n'est pas nécessairement le procurateur du lieu, de la source. Sinon, on peut juste signaler la découverte dans une fosse devant le temple, dont le reste du matériel n'est pas connu, la découverte d'un bistouri en bronze offert en ex voto par un médecin, ce qui renvoie donc de nouveau à la médecine. La topographie de la deuxième source, celle de Vicarello, les eaux neuves, n'a rien pour nous surprendre, une fois de plus. Elle se divise en deux parties bien distinctes. Au nord-ouest du ruisseau actuel, hein, vous voyez le ruisseau, se trouve la source isolée. Au sud de cette source, par là, les archéologues supposent l'existence d'un temple dont un chapiteau en marbre pourrait témoigner. Dans ce secteur, on a également mis au jour un fragment d'une statue d'Esculape, le dieu médecin. La source fait face à deux aménagements postérieurs. Un premier, qui se trouve à une quarantaine de mètres de la source, comporte une piscine quadrangulaire entourée de portiques. Plus au sud-est, une grande enceinte entoure un grand nymphée ou inclut un grand nymphée, une grande fontaine, dont provient une statue d'Apollon assez rare qui le montre en train de se coiffer d'un diadème. Mais c'est un type hellénistique connu. Et puis, il y a encore d'autres bâtiments d'époque flavienne tardive. Donc, à nouveau, nous observons la bipartition du site entre la source, d'une part, et les piscines. Un nymphée et sans doute des thermes ou des piscines de l'autre. Même si le site est mal conservé, mal fouillé, mal relevé, cette caractéristique ressort clairement des documents que nous avons. Le deuxième intérêt du site de Vicarello est représenté par l'énorme quantité de matériel découvert en 1852 lors des travaux assez radicaux, comme je vous l'ai dit, d'aménagement des bains de Vicarello. Dans la crevasse dont sort la source, hein, donc il faut imaginer que c'est par ici que se trouve cette crevasse, au-dessus d'instruments en pierre taillée, il y avait même des lames taillées, furent trouvés 400 kilos de morceaux de bronze brut, 1400 lingots d'AS gravés de bronze massif non frappé, à côté d'une centaine de monnaies de cités autonomes, donc avant la conquête romaine, plus de 2000 monnaies romano-campaniennes sont les premières monnaies romaines, 1688 monnaies d'époque républicaine, ainsi qu'une quantité énorme de monnaies d'époque impériale, d'Auguste jusqu'au début du IVe siècle. Il s'agit du plus vaste ensemble monétaire découvert en Italie. C'est de là que ça vient. Ce n'est pas un trésor, comme on le dit parfois, mais ce sont les pièces jetées au cours des siècles dans la source par ceux qui viennent l'adorer et qui, à chacun, y versent une sorte de contribution à la divinité. Mais il n'y avait pas que les monnaies. On tira également de la crevasse 15 gobelets ou contenants en bronze, dont 4 sont devenus très célèbres puisqu'ils donnaient sous forme d'inscriptions miniatures un itinéraire de Gades, Cadix, à Rome, en passant notamment par la Gaule. Et donc, les archéologues et historiens de la Gaule antique l'ont très beaucoup utilisé. Ces gobelets de voyage furent offerts à la source par des visiteurs. Les autres contenants nous intéressent davantage, je m'excuse chez les géographes, puisqu'ils livrent des informations sur les divinités vénérées à cet endroit. La première de ces inscriptions qui figure sur un gobelet porte le texte « En mémoire de Furia, épouse d'Asclépiadès ». Et cela me semble être non pas une offrande posthume, ce qui me paraîtrait bizarre, mais plutôt une offrande commémorant la visite, la cure ou l'activité de Furia en ce lieu. Notant que Asclépiadès est souvent un nom de médecin. La suivante donne le nom du propriétaire des lieux, Apollon, associé aux nymphes. Cette dédicace démontre par conséquent qu'Apollon est actif en ce lieu en tant que médicus, comme je l'ai dit, ce qui correspond, d'après un article récent de Marie-Laurence Hack, qui est sous presse, à une tradition étrusque ancienne. Apollon était connu en Étrurie, et nous sommes en Étrurie méridionale, comme médecin, médicus. Comme à Rome. La source patronnée par les nymphes assiste Apollon dans cette activité, mais c'est lui le propriétaire de la source. Vous noterez qu'il est mentionné en premier lieu. Nous comprenons ainsi que si un site porte le nom de Aquae Apollinares, il faut bien distinguer la source proprement dite, qui est gérée par les nymphes, ou qui est appelée Aquae, ou tout ce que vous voulez, qui réside dans la source, du propriétaire du site, le grand dieu, Apollon, par exemple. Lui possède d'ailleurs un temple où on a trouvé cette image cultuelle assez splendide que vous avez vue, et assez unique, enfin assez rare. Les nymphes, quant à elles, résident dans la source, elles sont attachées à la source. L'élément le plus... les dédicaces se font néanmoins aux deux divinités associées ou alors séparément, rien ne l'empêche. L'élément le plus important de cette dédicace est l'épiclèse des nymphes, nymphes domiciennes, évidemment d'après le nom de l'empereur. Ce détail laisse supposer que c'est lui qui créa ou réaménagea le captage de la source. Il est inutile de supposer qu'en raison de la gracilité de ses jambes, connues par les textes, il courait les thermes et donc ceux de Vicarello. Pour une raison inconnue, peut-être à cause de la proximité d'un domaine impérial, voire notre ami Eros cité tout à l'heure, il a décidé de construire ou de reconstruire les édifices de la source. Il a donné des crédits, c'est à 30 km de Rome. Vraisemblablement, beaucoup de personnages haut placés de Rome y allaient, donc il est normal que la caisse impériale ait fait des petits travaux sur le site. Continuons. Gavia Rodinae donne au pur Apollon, Sanctus encore, et aux nymphes, en acquittement du vœu qu'elle avait formulé, une coupe d'argent d'une demi-livre. Voilà ce qu'il faut, une coupe d'argent, un gobelet d'argent d'une demi-livre. Même remarque sur l'association d'Apollon, dit Sanctus, inviolable, pur, aux nymphes. Sur le troisième vaisseau, nous lisons Claudius Severianus en don à Apollo Sanctus. Vous constatez qu'Apollon peut aussi recevoir une offrande dans la source. Non seulement on offre dans la source des cadeaux, des dons aux propriétaires de la source et du lieu et aux nymphes qui résident dans la source et qui font fonctionner la source, si vous voulez, mais on peut aussi l'offrir à Apollon tout simplement, puisqu'il est le propriétaire. Et les inscriptions suivantes nous l'apprennent. D'abord, une amphorette, qui est très jolie, qui répète la dédicace à Apollon aux nymphes purs, une fois de plus, d'une certaine Nevia Basilia. Et surtout, cette inscription-ci, où vous avez Apollon et Sylvanus qui se joignent aux nymphes. Lidio Gasperini a tout à fait raison de distinguer Apollon de Sylvanus au lieu de faire de Sylvanus une épiclèse d'Apollon, une sorte d'Apollon sylvestre. C'est une construction assez étrange qui n'est pas très heureuse, mais que certains font. Nous sommes sur le territoire de Forum Claudii et non en ville, et la source est un phénomène naturel brut, non domestiqué, situé à la campagne. C'est pour ces deux raisons que Sylvanus peut tout à fait être présent au sanctuaire d'Apollon et des nymphes. Dumézil a comparé Sylvanus à une sorte de dieu lar. Les lares sont les dieux du terroir exploités par les humains. Sylvanus serait le dieu du terroir là où il se change en campagne sauvage, non exploitée, non domestiquée. Ce rapprochement est assez heureux et c'est ainsi qu'il faut le penser pour voir sa place ici. Nous sommes à la campagne, Sylvanus, sur ces espaces marginaux, est donc tout à fait à sa place. Il y a les nymphes, il y a Apollon. Quintus Licinius Nepos, qui a fait cette offrande, est intriguant. Il porte un nom clarissime de sénateur. En 183 de notre ère, un sénateur de ce nom figure parmi les frères Arval de Rome. Le caractère laconique du document empêche toutefois d'assimiler notre Licinius à l'auguste personnage du Sénat. Enfin, c'est une possibilité. Une inscription copiée au XVe siècle par Fra Giocondo de Vérone ajoute même à ce lieu, n'est-ce pas, ajoute même Asclepius à ce groupe, puisque nous lisons consacré à Apollon, Sylvanus, Asclepius et aux nymphes, Lucius Ajacius Phoebus, membre de la décurie Julia des héros AUTS, consulaire, a donné cette offrande avec son fils Phoebianus après avoir formulé un vœu. Une tête d'Esculape a été trouvée à proximité de la source, encore une fois, et l'inscription elle-même confirme l'existence d'une chapelle du dieu médecin dans ce lieu, et qu'il est tout à fait normal de trouver à côté de son père, Apollon. On notera l'ordre hiérarchique des divinités, d'Apollon, l'un des grands dieux, aux nymphes, petite divinité fonctionnelle, en passant par Sylvanus, un dieu de toujours, et Esculape, fils d'un dieu et d'une mortelle, Coronis, n'est-ce pas ? Vous avez un ordre très logique dans ce petit panthéon. Et là, vous voyez très clairement, comme les virgules que j'ai mises l'indiquent, qu'il s'agit de quatre divinités. On ne peut pas s'amuser à adjoindre Sylvanus comme adjectif à Apollon. Ça devient des absurdités. Ce sont vraiment quatre divinités. Comme toujours, les Romains ne mettent en latin, on ne met pas de « et » entre les noms qui sont énumérés. Passons sur une dédicace aux nymphes seules, qui provient d'une dame, et deux dédicaces qui se contentent de donner simplement le nom des dédicants en passant le reste sous silence. Et lisons une dernière inscription en grec sur pierre qui figure sur un petit autel soutenant un ex voto que nous ne connaissons pas. Elle ne provient pas de la crevasse, mais de ses environs. Elle se dressait donc à une certaine distance de la crevasse. On a parlé d'un reste de Favissa, ce qui est tout à fait incertain, mais en tout cas, elle provient du secteur du temple. Voici le texte. Sextilios Obas d'Aphrodisias, fils d'Atal, d'Atalos, à Apollon à la suite d'un rêve. C'est donc un personnage qui vient d'Asie mineure, d'Aphrodisias, et qui porte aussi un nom grec, et qui a offert ce texte voto à la suite d'un rêve. On peut investir beaucoup dans cette mention d'un rêve, kat onar, dans la troisième ligne avant la fin, mais rien ne permet de décider à partir de cette simple indication que notre sanctuaire de source pratiquait l'incubation. La formule est trop générale, et puis Apollon n'est pas Esculape, ce n'est pas tout à fait la même chose. Une dernière question doit être évoquée, la fonction des gobelets et petits vases qui ont été récupérés de la source récente. Étaient-ils destinés à la boisson? C'est ce que nous attendons immédiatement d'après notre propre culture thermale. Nous avons vu que la plupart sont des dédicaces, votives ou non. Les quatre gobelets avec l'itinéraire Cadix Rome ne sont pas dédiés et sont interprétés comme des gobelets de voyage offerts par des voyageurs de passage aux divinités du site, peut-être parce qu'elles arrivaient. La source elle-même, qui sort à 48 degrés 8, est aujourd'hui conseillée comme boisson pour les dyspepsies, pour les bains et des bains de boue, destinés aux maladies rhumatiques chroniques, la rééducation et les maladies diététiques, c'est-à-dire les maladies chroniques comme l'arthrite. On peut douter que ceux qui avaient mal digéré faisaient le voyage jusqu'à Vicarello, mais admettons que ceux qui avaient la digestion difficile aient pu le faire. Nous savons que les naturalistes et les médecins antiques évoquent la boisson d'eau thermale, et vous verrez des textes où on s'interroge si, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut se plonger dedans, il faut le boire. Et donc, il ne s'agirait pas d'une nouveauté extraordinaire. Les malades ou les visiteurs qui ont offert les vases, gobelets ou amphorettes remerciaient en tout cas la source et les dieux pour avoir été guéris par l'absorption de cette eau thermale. Une autre explication des gobelets serait toutefois beaucoup plus triviale et consisterait à admettre que ces gobelets contenaient une offrande, du vin par exemple, ou plutôt qui a été versé avec le gobelet dans la source, ou plutôt qu'il s'agit d'un cadeau d'un visiteur qui offre au dieu ce qui sert normalement au cours d'un déplacement, un gobelet sur lequel il a fait inciser sur place la dédicace. Conservons pour l'instant l'idée, la question en tête, pour voir si nous trouverons d'autres attestations de ce type de cure et d'offrande. Les sources apollinaires offrent donc une confirmation, hésitante en raison des conditions des grands dégagements du XIXe siècle, de l'organisation topographique du lieu de culte, qui confirme une reconstruction faite à partir du texte de Pline et des deux images examinées. Elles mettent d'autre part en évidence les rôles des divinités assemblées autour de la source. La propriété de la source paraît être celle d'un grand dieu, Apollon, le Médicus, qui traite les malades à l'aide des nymphes, et de son fils Esculape, peut-être, à la campagne, dans un contexte naturel brut géré par Sylvanus, et que celui-ci ouvre aux autres dieux et aux voyageurs, en toute sécurité. Enfin, comme nous venons de le voir, les gobelets et les autres petits vases dédiés soulève une question à laquelle l'examen d'autres sites pourra peut-être apporter une réponse. Continuons notre pèlerinage en allant un peu à l'est de Forum Claudi, vers la mer, où se trouvent Cervetri, Caire, et ses aquae Ceretanae, les eaux de Caire ou Cairites. Il y a quelques années, on a retrouvé ses yeux au lieu-dit Piano della Carlotta, à quelques kilomètres de Sasso di Furbara. Vous voyez ici la station de chemin de fer de Furbara, et c'est dans ce secteur que ces termes ont été retrouvés. Rome, vous voyez l'Adis Poli, nous sommes à 15 km d'Ostie et de Fiumicino, n'est-ce pas, et très près de Rome, sur la plage. La tradition mettait ses sources, au moins l'une d'elles, en relation avec Hercule, parce que parmi les nombreux prodiges qui ont annoncé la deuxième guerre punique, en 217, Tite-Live cite le fait que les Aquae Kairetes, je traduis, avait coulé mêlé de sang à la source, et qu'à la source même d'Hercule, l'eau avait eu des taches de sang. Le nom de cette source, Aquae Herculis, n'est-ce pas, la source, les eaux d'Hercule, paraît indiquer, une fois de plus, qu'Hercule est le découvreur de cette source, conformément à une tradition que nous avons déjà vue. Il donne des coups de massue et fait jaillir de l'eau. C'est un grand découvreur de sources. À Civitavecchia, Vecchia, c'est tout ce que nous savons de cette source, n'est-ce pas? On y reviendra. À Civitavecchia, Vecchia, la source des Aquae Tauri, les sources du taureau, terme est taurine et aujourd'hui, source du taureau, aurait été produite par Jupiter quand, sous la forme d'un taureau, il aurait frappé d'un coup de sabot la terre, ainsi que le raconte, nous le verrons, Rutilius Namatianus. Quoi qu'il en soit, les sources chaudes de Caire, qui sortent actuellement de terre à 40 degrés, et qui, d'après le médecin antique Caelius Aurelianus, voilà les termes taurines et comme elles sont à l'époque postérieure romaine, les grands termes, mais la source, on ne l'a pas. Nous allons revenir à cela, je pense, pour lire le passage qui concerne le site des termes taurines, donc, que nous avons vu. Je vous ai dit que Rutilius Namatianus raconte une histoire semblable, n'est-ce pas? Vous pouvez lire cela. Il retourne à Rome et il s'arrête au terme taurine. Et c'est un taureau qui, par la découverte de cette source, nous donna ses bains chauds, car cet animal a coutume de faire sauter des mottes de terre lorsqu'il prélude au combat, frottant à un tronc ses cornes inclinées. Ou bien ce fut un dieu qui, ne voulant pas laisser ignorer les richesses d'un sol brûlant, emprunte la figure et les armes d'un taureau. C'est donc Jupiter, d'après une autre tradition. D'après Caelius Aurelianus, ces eaux de Civitavecchia étaient les eaux de Caire, pardon, c'est à peine plus loin, n'est-ce pas, 50 km plus au sud. Ces termes qui sortent à 40 degrés seraient même les plus chaudes d'Italie. À en croire Strabon, géographe de l'époque d'Auguste, elles étaient réputées et attiraient de nombreux visiteurs de Rome. Strabon écrit en effet à propos de Caire, d'une cité aussi illustre et brillante à l'époque étrusque, il ne reste plus aujourd'hui que quelques vestiges, et c'est bien davantage dans la station thermale voisine appelée Eau de Caire, n'est-ce pas, Therma Acalusi Caeretana, qu'on compte une population nombreuse à côté des villégiaturans venus y faire leur cure. On y vient pour se reposer de Rome. Tout cela, c'est un anneau de thermes et de bains autour de Rome où viennent tous ceux qui ont le loisir de fréquenter ces lieux. En marge des installations thermales, dans une zone qui n'a pas encore été fouillée et qui était sans doute réservée au culte, trois inscriptions du début de l'Empire ont été découvertes, qui nous en disent davantage sur le site. La première est une petite colonne, une petite colonne avec une dédicace à Jupiter, à la source des eaux Caeretanae, par un esclave impérial du nom de Florentinus. Donc vous voyez de nouveau Jupiter, patron des lieux, Fons Aquarum, la source des eaux thermales. La deuxième, qui est gravée sur une plaque de table et qui s'appuyait sur un seul pied quadrangulaire, émane d'un porte-enseigne d'une unité militaire dont le nom se trouve dans une cassure, mais qui doit appartenir aux cohortes prétoriennes ou urbaines de la ville de Rome. Ces inscriptions présentent donc le scénario habituel de grands dieux Jupiter et Hercule associés à la source, ici le Fons des eaux de Caire. La troisième inscription, également posée par un militaire, centurion dans la sixième cohorte des pompiers de Rome, les vigiles de Rome, rédige autrement la liste des dieux. Nous lisons à Jupiter et à Hercule des eaux Caeretanae, Publius Scribonius Proculus, centurion de la sixième cohorte des vigiles, a acquitté son vœu à bon droit. La regrettée Patricia Sabatini comprend cette construction comme l'indice que les eaux Caeretanae sont comprises ici comme un simple toponyme et que Jupiter et Hercule, reliés d'ailleurs par Eth, seraient les protecteurs de ces eaux. Ce n'est pas faux, d'après ce que j'ai dit, mais j'ajouterai toutefois que ce ne sont pas seulement les protecteurs, mais aussi les dieux qui s'en servent. La construction avec le génitif, Jupiter, Hercule, des eaux de Caeré, ce n'est pas seulement la toponymie, mais c'est aussi peut-être une association plus étroite, comme on la trouve dans cette vieille construction, sous forme qui consiste à ajouter sous forme d'adjectif ou de génitif le nom d'une divinité active dans un lieu de culte ou dans un champ de compétences donné qui appartient à une autre divinité, comme par exemple Salakia Neptuni, la bondissante de Neptune. Vous voyez très bien de quoi il est question. Nerio, la violence de Mars, la Vénus de Jupiter, soit c'est le sanctuaire de la deuxième divinité qui est en cause, soit c'est le champ d'action de cette divinité. Et on a l'impression qu'on a ici quelque chose comme ça, le Jupiter et l'Hercule qui sont actifs dans le sanctuaire des eaux de Caeré. Peut-être. Pourquoi Jupiter et Hercule? Comme je l'ai dit, manifestement, Jupiter avait un rapport avec les sources en Italie centrale, comme les exemples de Civitavecchia, lus tout à l'heure, et du Clitumne le démontrent. Hercule, qui paraît avoir même possédé, d'après le passage de Tite-Live que j'ai cité, une source propre, un débouché propre dans le site thermal, est aussi réputé dans la région pour avoir créé d'un coup de massue le lac Cimin, le lac Cimino, où nous avons vu cette inscription à Bonadea il y a quelques heures, le lac de Vico actuel, qui n'est pas loin de Cervetri. Son intervention d'Hercule dans la découverte de la source de Caeré n'est donc pas invraisemblable. Nous n'apprenons rien sur les raisons de ces dédicaces que nous avons brièvement commentées. Les dédicants étaient-ils malades, blessés ou simplement au repos? On constate qu'il s'agit de militaires ou de paramilitaires, mais la documentation disponible ne permet pas de répondre à cette question. Nous pouvons commencer une nouvelle excursion, n'est-ce pas, en allant maintenant vers l'intérieur, vers les Aquae Cutiliae en Sabine. Vous voyez, on était là, Civitavecchia, Cervetri, et nous allons maintenant à l'intérieur de la péninsule, dans la zone de Rieti. Le site des Aquae Cutiliae en Sabine est aussi peu exploré archéologiquement, mais il a été souvent décrit par les auteurs anciens. Leurs descriptions mettent bien en évidence le caractère surhumain, très surprenant, du lieu. Enfin, des indications topographiques, vous voyez les termes sont ici, Cotilia, vous avez Rieti, et puis dans les montagnes, ici, quelque part, il y a le site très large où l'on propose de localiser les Aquae Cutiliae. Les indications topographiques que nous donnent les documents illustrent une fois de plus des données déjà mises en évidence ailleurs. Les eaux Cutiliae alimentaient un lac, aujourd'hui identifié au Lago Paterno, qui avait comme particularité de comporter une île flottante qui se déplaçait sous l'effet du vent et ne se trouvait jamais au même endroit que la veille. Elle était couverte d'herbes et portait même des arbres. Le lac, qui a aujourd'hui disparu, avait une surface d'environ 2 hectares et demi. L'île mesurait 14 mètres environ. Voilà une des descriptions qui est due à Pline et qui nous dit aussi que l'île en question était plantée, ou le lac, les environs du lac, non, l'île était plantée, pardon, d'une forêt opaque. Denis d'Halicarnasse, quant à lui, raconte qu'une palissade défendait l'accès à ce lac, sinon pour aller sur l'île afin d'y célébrer les sacrifices. Nous sommes en terre connue, je vous traduis cela, comme le lac a je ne sais quoi de divin, les habitants de la région le considèrent comme consacré à la victoire, Niké, et l'ayant complètement entouré d'une ceinture de bandelettes, les bandelettes marquent l'espace sacré, traditionnellement à Rome, ils le gardent inviolé en ne permettant à personne d'approcher de l'eau, sauf à certains moments de l'année où, pour accomplir les sacrifices qu'exige la coutume, ils se rendent sur sa petite île, ceux dont c'est la charge sacrée, donc les prêtres ou les magistrats chargés du culte. Donc, une fois de plus, vous avez l'eau sacrée. Ici, il ne s'agit pas d'une source, mais d'un lac merveilleux avec une île flottante qui se promène de 14 mètres et qui est sacrée. On n'y approche pas, on y va juste comme au clitumne en barque pour célébrer, quand on a cette fonction, le culte. Eh bien, nous reprendrons là la semaine prochaine pour visiter un autre lac merveilleux et les eaux Koutiliae encore en détail, avant de nous enfoncer dans le sud pour visiter le sanctuaire de Méphitis. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.